Voilà ce récit qu'on va lire ensemble avant d'écouter le commentaire sur cette parole. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À le retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Et celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : De quoi vous entretenez-vous ? En marchant, parce que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit : Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses ? Et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant : Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Et tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis de crainte et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Prions. Seigneur, c'est ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que cette parole nous touche ce matin, ta résurrection. Eh bien, Seigneur, parle-nous. Parle à nos cœurs. Afin qu'ils se réchauffent et qu'ils te reconnaissent. Et Seigneur, que tu nous transformes à ton image, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, le Christ, le Messie, loin de Dieu, au baptême, le ciel s'est ouvert et Jésus, le Père, a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce Christ est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. J'aimerais évoquer sept caractéristiques de la résurrection. La première, c'est la clé de voûte. La résurrection est la clé de voûte de l'arche de la vérité. Dans 2 Timothée 2, 8, 9, il est écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts selon mon évangile. » L'évangile, la bonne nouvelle, c'est Jésus est ressuscité des morts. La deuxième clé caractéristique, c'est la garantie de la foi. Dans Romains 10, verset 9, chapitre 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Troisième caractéristique, c'est la sève de l'Évangile, l'enseignement, la doctrine de l'Évangile. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, au chapitre 15, verset 3, dit « Je vous ai enseigné que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » La quatrième caractéristique est le fondement, c'est le fondement de l'espérance. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. « Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Cinquième clé, c'est l'avant-coureur. La résurrection, c'est l'avant-coureur de la gloire. Là, c'est Pierre qui s'exprime dans 1 Pierre 1, verset 3. « Régénéré par les résurrections, pour un héritage glorieux, qui ne se peut corrompre ni souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. » Le sixième caractéristique, c'est l'évidence du surnaturel ou du supernaturel. C'est Paul qui le décrit dans Éphésiens, chapitre 1, verset 20. Il est dit « La vertu de sa force, donc la force du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, en attendant son règne sur la terre. » Dernière caractéristique, la septième, c'est l'encouragement à une vie transformée. Et là, Ruben a passé par là. pour vous montrer que effectivement nous avons en Christ une possibilité d'être transformés par lui. Dans Romains, l'apôtre Paul dit au chapitre 6, verset 4, « Ressusciter des morts pour la gloire du Père, pour que nous marchions en nouveauté de vie. » Pour que nous marchions en nouveauté de vie. Nous ne sommes pas condamnés à continuer à marcher comme nous sommes. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous venez ici, au culte, etc., vous pouvez vous attendre à ressortir transformé, quelque chose qui a changé, vous voyez, c'est que le Seigneur veut nous transformer pour être à sa gloire. Alors, regardons un peu la nature de cette puissance, puisque la résurrection est la clé de ces sept caractéristiques, et encore, c'est le minimum. Eh bien, regardons la résurrection qui est une puissance. De quelle puissance s'agit-il ? Dans Philippiens, l'apôtre Paul, au chapitre 3, verset 4, a dit, Paul évoque tout ce qui avait été avant sa conversion, donc Paul était un érudit, etc., et qu'il considère désormais comme une perte, parce que son désir est de connaître Christ. C'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection. La résurrection est une puissance. Amen. Et c'est cette puissance que nous voulons expérimenter. C'est une puissance à l'état pur. Cette puissance est inimaginable pour l'homme. La toute-puissance de Dieu... Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre exprime cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts comme la mesure de la puissance de Dieu. Il parle, alors écoutez bien, de l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a déployée dans toute sa force en le faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, Éphésiens 1, 19. Tout ce que le grec, la langue grecque, connaît, en termes de force, qui désigne la force, les mots qui sont entrés dans la langue française, c'est la dynamite. Donc la dynamite, l'énergie. Dans la langue française, tout ce qui possède le terme hyper, hein, hypermarché, hyper, etc., ou méga, etc., pour renforcer une idée, Paul semble l'avoir accumulé là pour nous donner une lointaine idée de la puissance infinie de Dieu. Il dira « La grandeur qui surpasse tout de sa puissance, donc sa dynamite, de sa dynamis, hein, selon l'énergie du pouvoir de sa force. » Vous voyez les mots qui sont utilisés. C'est cette puissance que Dieu a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Comme la bombe atomique tombée sur Hiroshima a révélé au monde la puissance infinie insoupçonnée cachée dans de la matière apparemment inerte. La résurrection du Christ a révélé à l'humanité la puissance de Dieu. Qui aurait soupçonné, avant cette explosion à Hiroshima, qu'un caillou d'uranium, hein, vous prenez un caillou qui se trouve dans la Terre, hein, et l'uranium est présent un peu partout, c'est pas comme de l'or, etc. Vous pouvez le trouver un peu partout, l'uranium, un caillou d'uranium de quelques kilos. Dans ce caillou est contenue une puissance capable de détruire une ville de plusieurs millions d'habitants. Et pourtant, qu'est-ce que cette puissance en comparaison de celle de Dieu ? Du Dieu qui a créé les atomes et qui les a enfermés dans la prison de la matière, et les y maintient dans une immobilité apparente, malgré le mouvement vertigineux et incessant. Voyez-vous, cette réalité de l'atome, qui a été découverte au début du XXe siècle, par Marie Curie, et même d'autres, etc., Planck, et ensuite après Einstein, eh bien, les scientifiques, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils ne pouvaient pas l'expliquer, en tout cas pas de manière logique, logique formelle, hein, basée sur l'apparence de la matière, parce que si je vous dis que ce pupitre-là, eh bien, c'est plein de vide. Vous allez dire, mais il est fou, quoi. Effectivement, quand on aurait dit ça au XIXe siècle, c'est plein de vide, quoi. C'est du vide, quoi. Il y a peut-être 0,1% de matière. On ne pouvait pas l'expliquer, parce que, voilà, où c'est de la matière, où c'est du souffle, où c'est un esprit, où c'est de la matière. Vous voyez, c'est dual, quoi. Et là, on découvrait, d'un seul coup, que ça, c'est du vide. Alors comment l'expliquer ? Eh bien, il a fallu inventer une logique de raisonnement. C'est Lupascu qui l'a fait, un Roumain, qui, en fait, c'est la logique trialectique, où il dit que la matière est équivalente à l'énergie. Vous voyez, E égale MC2. E, l'énergie, et M, c'est la matière. Donc il y a un rapport entre les deux. Et dans un caillou d'uranium, ben, vous avez de l'énergie. Là-dedans, vous avez de l'énergie. Si vous prenez ce pupitre, vous le transformez en énergie, vous pouvez faire une bombe atomique, enfin pas jusqu'à une bombe, mais parce que l'uranium est plus rempli, voilà. Mais c'est ça, vous voyez ? Donc ça dépasse notre raisonnement. En tout cas, si on disait ça au XIXe siècle, d'ailleurs ça a été dit, les gens passaient pour des fous. Maintenant, c'est une évidence. C'est une évidence. Eh bien, de la même manière... Nous, ça nous dépasse quand on voit la résurrection. Elle est de cette nature où on ne peut pas le comprendre, mais on peut le manifester. Jésus, ben, il peut traverser les murs. Il s'est présenté aux disciples, d'un seul coup, il disparaît. D'un seul coup, il réapparaît. D'un seul coup, etc. Voilà. Il avait cette capacité. Comme ici, vous voyez, ce pupitre, ben, si vous le voyez avec un microscope, ben, il est rempli de vide, puisque vous ne voyez que des atomes. Voilà. Et entre les atomes, il y a du vide. Sauf que c'est de l'énergie. Donc ça, c'est de l'énergie et de la matière. Et donc, vous pouvez transformer en énergie et matière en énergie, etc. Et en plus, Jésus peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Très, très rapide, même au-delà, peut-être. Et cette réalité existe aujourd'hui dans la création de Dieu. Je crois que Dieu a permis à l'homme, il a révélé à la fin des temps, dans lequel nous sommes, eh bien, sa création. Pour que l'homme, au jugement dernier, il n'ait aucune excuse. Il a vu des choses que Dieu a créées, et il n'en a pas tenu compte pour donner gloire à son Créateur. La prétention aujourd'hui de l'homme qui a découvert ça, hein, c'est d'essayer de le maîtriser. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme aujourd'hui, il y a des gens qui sont très riches comme Google, Amazon, etc., qui se lancent dans cette volonté d'utiliser la physique quantique avec les ordinateurs quantiques, etc. Bien sûr, c'est formidable. Mais ils essayent de maîtriser cela. Et je crois que c'est comme la tour de Babel. Et la tour de Babel, les hommes ont voulu construire pour atteindre Dieu. Et à un moment donné, Dieu a dit stop. C'est pas que c'est impossible. Il a dit stop, là ça suffit. Je crois que nous sommes dans ces temps-là. Honnêtement, je le crois. Que le transhumanisme, c'est de vouloir utiliser cette énergie, énergie matière, qui est disponible pour l'utiliser comme Dieu, mais ça ne nous est pas permis. Donc, la puissance de la résurrection, pour revenir à notre texte, c'est la puissance de Dieu à l'état pur, qui a dans sa main toutes les sources d'énergie de l'univers, et qui a donné lui-même l'impulsion première à tous ces astres, qui par myriades gravitent dans l'espace à des vitesses, laissant loin derrière eux toutes les fusées créées par l'homme. Le Christ est ressuscité par la puissance de Dieu. Et connaître la puissance de sa résurrection, c'est d'abord connaître la puissance infinie qui est en Christ. Colossiens chapitre 1er va dire « Tout a été créé par lui et pour lui ». Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est la puissance incommensurable du Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, qui se manifeste en Christ, le Fils de l'homme. Alors c'est aussi une puissance de vie. Pas juste une puissance et l'état pur, une puissance de vie. L'homme a su découvrir d'immenses sources d'énergie cachées dans la matière. Mais qu'en a-t-il fait ? Une puissance de mort. La bombe Hiroshima, et aujourd'hui, si tout le monde appuyait sur les gâchettes des bombes qui sont disponibles, eh bien, la planète n'existerait plus. Une puissance de mort. La puissance de Dieu est une puissance de vie. L'homme sait utiliser l'énergie qui lui est donnée par Dieu. Il sait la transformer, libérer l'énergie contenue dans la matière, mais il ne sait pas la créer. Il ne sait pas la créer. Dieu seul la crée. L'homme sait aussi étudier la vie, la transformer, la détruire, mais il ne sait pas la créer. Elle est un mystère pour les plus grands biologistes. Qu'est-ce qui a changé dans la seconde qui sépare le moment où l'oiseau était perché sur une branche de celui qui est tombé mort sur le sol? Il est toujours pareil. Rien n'a changé dans son apparence, sauf qu'il ne peut plus voler, il est mort. Il avait la vie, et maintenant il l'a plus. Les savants ont échafaudé un tas de théories complexes sur la transformation de la vie de l'amibe à l'être humain. Mais ont-ils jamais pu créer une seule amibe vivante? Ou rendre la vie à une amibe qui est morte? Le problème des origines reste tout entier, avec ou sans évolutionnisme. C'est souvent un mauvais débat, car on n'a encore jamais résolu le problème des origines. Si vous penchez sur la question, la science peut expliquer un tas de choses, l'expansion de l'univers, etc. Mais ils reconnaissent que jamais ils ne pourront atteindre l'origine. Vous savez, le quart de millième, de milliseconde, de machin, etc., du début. Ils reconnaissent que ça sera impossible. Même les plus grands savants aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est impossible de retourner à l'origine. On peut expliquer l'évolution, on peut expliquer un tas de choses, mais pas l'origine. L'origine de cette puissance et de la vie. Parce qu'elle n'appartient qu'à Dieu. Car Dieu seul peut créer la vie et la rendre à un corps où la vie l'a quitté. Il est dit que le Père a la vie en lui-même, dit Jésus. Le Père donne la vie, il ressuscite les morts. La puissance de la résurrection est une puissance capable de rendre la vie à un corps qui a perdu tout son sang, qui était enseveli depuis 3 jours. Et cette puissance, l'homme ne la possède pas et il n'est pas prêt de la posséder. La puissance de la vie est capable de briser les pierres les plus dures, comme le fait le saxifrage, par exemple, lorsque ses racines s'enfoncent dans une roche. Il rend de simples pousses de blé capables de soulever des charges 100 fois plus lourdes. Connaître la puissance de la résurrection, c'est connaître la puissance de la vie. Mais en plus, c'est une vie nouvelle. La vie de Jésus, après sa résurrection, n'était pas une simple reproduction ou une suite de vie d'avant sa mort. C'était une vie nouvelle, avec des caractères nouveaux et différents. Il n'était plus soumis aux lois de la pesanteur, ni de la mort, n'a plus de pouvoir sur lui. Il n'y a plus de barrière infranchissable pour lui. Il passe à travers les murs, à travers les portes fermées, à travers le temps, à travers la distance. La puissance de la résurrection transforme la vie en une vie nouvelle. Voyez-vous, le retour à la vie concernant Jésus n'est pas le même ordre que le retour de Lazare, qui était dans le tombeau à la vie. Lazare a dû mourir une deuxième fois. Jésus ne peut plus jamais mourir, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Je signale au passage que Lazare ne pouvait pas se débarrasser des bandelettes lui-même quand il est sorti. Jésus a dit « débarrassez-le des bandelettes ». Jésus, les bandelettes étaient roulées, et il était sorti du tombeau et il s'est présenté sans les bandelettes. Alors Lazare ne pouvait pas traverser les murs, ni voilà, il est revenu à la vie. Non, Lazare a reçu le même corps mortel qu'il avait pour une durée supplémentaire de vie humaine. C'est pour manifester la gloire de Dieu que Jésus a fait ça. Mais ce n'était pas une résurrection, c'est une, je dis, une ressuscitation, pour faire la différence. Alors ce qui est important, c'est de connaître cette puissance. Non seulement de savoir qu'elle existe, c'est de la connaître. Que signifie pour nous connaître la puissance de la résurrection? Parce que Paul insiste. Il a dit, moi, je considère tout ce que j'ai appris, et c'était l'homme le plus cultivé de son temps, comme de la perte pour connaître la puissance de la résurrection. Est-ce que nous voulons, est-ce que vous voulez connaître la puissance de la résurrection, comme Paul l'a voulu ? C'est ça la caractéristique du christianisme. La vie de Jésus, après sa résurrection, n'était pas une simple reproduction. Non, c'est que connaître la puissance de Dieu, c'est que nous avons à notre disposition une puissance inimaginable, avec laquelle aucune puissance ne peut être comparée. Paul parle de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. Il dit que cette puissance est pour nous qui croyons. Que sont face à cette puissance nos difficultés, nos impossibilités à notre échelle humaine ? Voyez-vous, quand on connaît la puissance, on rapetisse tous nos problèmes, même s'ils sont énormes. La résurrection du Christ est aussi une impossibilité à l'échelle humaine. C'est pourquoi beaucoup d'hommes n'y croient pas. Parce qu'ils ne peuvent pas y croire sans la révélation. Mais c'est un fait, mes amis. C'est ce qui s'est passé. Et ce fait a embarrassé bien des hommes qui ont commencé à y réfléchir sérieusement. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est Frank Morrison. Frank Morrison voulait démontrer que la résurrection de Jésus n'avait pas eu lieu. Alors, en juriste consciencieux, il a analysé toutes les circonstances des récits des évangiles. Le matin de Pâques, le tombeau était vide. C'est une évidence. Car s'il n'avait pas été vide, lorsque les disciples ont commencé à raconter que Jésus était ressuscité, les Juifs auraient organisé une réunion publique autour du tombeau. Ils auraient rompu les scellés, sorti le corps qui commençait à se décomposer. Et plus personne à Jérusalem n'aurait cru à cette histoire de résurrection. Le tombeau vide était donc un fait. Alors comment l'expliquer ? Les disciples ont volé le corps, disaient les Juifs. Est-ce crédible ? Est-ce là tout le respect que les apôtres avaient pour leur maître ? Le sortir d'un beau caveau pour le cacher dans un trou secret ? Et pourquoi l'aurait-il fait ? Pour le plaisir de raconter qu'il était ressuscité ? En vue de quoi ? Pour se faire persécuter, lapider ? Crucifié. Et jusqu'à la fin, aucun d'eux n'aurait vendu la mèche, même devant le martyr. Étudiez les évangiles. Et vous verrez que les disciples n'étaient pas du tout prêts à croire à cette résurrection. Et qu'il a fallu que Jésus use de tous les moyens de persuasion pour les en convaincre. Manger devant eux. Leur faire mettre les doigts dans la marque des clous. Et voilà ce qui s'est passé. Au lieu d'écrire un livre pour ruiner la foi, Morrison a écrit un autre pour prouver la réalité de la résurrection. Un autre, qui s'appelle Wallace, l'auteur de Ben-Hur, certainement vous avez vu le film, ont suivi le même itinéraire. Non, il n'y a pas d'autre explication au tombeau vide que la résurrection de celui qui y avait séjourné pendant 3 jours. Mais alors, pourquoi ? Nos difficultés, nos lenteurs à croire, nos doutes, nos hésitations, nos paroles, telles que « Dieu peut-il cela ?» Et parce que nous n'avons pas encore jamais eu la vision de cette puissance de Dieu. Or, cette vision ne vient pas par le raisonnement, mais par une révélation divine, par une expérience de révélation. C'est pourquoi l'apôtre prie pour que les Éphésiens comprennent. Voilà ce qu'il dit dans Éphésiens 2. Il dit « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. » Cette puissance, il l'a déployée dans la résurrection de Christ. Je vous invite à ce stade d'écouter une vidéo web séminaire E21 qu'on a écrit, qu'on a écouté peut-être d'autres parmi vous. En tout cas, je sais que Pierre-André l'a vu aussi, Florence. La croix en 4 mots, animée par 3 théologiens qui rentrent un petit peu dans ces détails, qui apportent des éléments à cette conviction que Christ est vraiment ressuscité. C'est Évangile 21, mais je crois qu'ils ne l'ont pas encore mis pour l'instant, c'était en direct jeudi soir. Regardez aussi, si vous le souhaitez, le documentaire sur Arte qui s'appelle « La magie du cosmos », on l'a vu avec Michel. Et là, on est sidéré, parce que On dit, mais la résurrection de Jésus, c'est facile. Quand on voit ce qu'on a découvert avec les atomes. Et là, il n'y a plus de doute. Sauf que ça ne nous est pas accessible aujourd'hui, mais les hommes voudraient, avec le transhumanisme, en arriver là. Mais c'est tout à fait possible. C'est déjà vrai dans la création qu'on peut traverser les murs, on peut faire un tas de choses, etc. Et justement, le Nouvel Âge veut s'emparer de ça. Il n'a pas tort que ça existe. Sauf que ça nous est interdit aujourd'hui, parce que nous sommes encore de pécheurs, mais après, nous vivrons cela. Regardez la magie du cosmos et vous verrez que déjà maintenant, on a cette connaissance de la puissance de Dieu dans sa création. Connaître une puissance de vie. La parole de Dieu dit que par nature, nous sommes morts à cause de nos fautes et de nos péchés. Mais Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Éphésiens 2:4. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père et qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Jean dira, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Regardez la rencontre de Jésus avec Nicodème. La nouvelle naissance. Avez-vous expérimenté cette puissance de résurrection qui transforme un homme mort dans ses offenses et un homme vivant pour Dieu dans la justice et la sainteté? Je sais que quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'étais en larmes sur mes péchés. J'ai réalisé que j'étais pécheur, alors que j'étais un gentil garçon. Hein. Voilà. Vous pouvez demander à ma mère, mais elle n'est plus là. Mais non, le péché n'est pas lié à ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. C'est notre nature. Notre nature, nous avons une nature de péché. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11, 25. Oui, vraiment, je vous l'assure, dira Jean, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est ce que Jésus appelait la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, tu ne peux pas entrer dans le royaume si tu n'es pas de nouveau. Mais là ne s'arrête pas la puissance de vie que Dieu a déployée en Christ et qu'il veut aussi déployer dans notre vie. Cette vie nouvelle veut éliminer de notre vie tous les germes de mort et triompher de toutes les manifestations du règne de la mort en nous. Cette expression imagée de l'apôtre Paul, la mort doit être engloutie par la vie. C'est comme la puissance de vie qui brise les rocs. Elle veut briser le roc le plus dur de notre cœur. Comme elle soulève des poids, elle peut nous donner la force de porter des fardeaux qui dépassent nos forces. Et je pense à Colette, hein, qui en ce moment est soutenue par le Saint-Esprit pour dépasser ce deuil qu'elle connaît. Je veux que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, dira Jean, chapitre 10, verset 10. Vous voyez, l'action du Saint-Esprit que Jésus a envoyé, donc l'action vivifiante de la puissance de résurrection, se ressentira jusqu'en nos corps mortels. Il est écrit dans Romains 8, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Il les vivifiera par son esprit qui habite en vous. » L'Esprit qui habite en nous, il nous donne déjà cette vie de résurrection. Mais cette puissance de vie ne s'arrête pas là. Comme toute vie, elle a tendance à se multiplier et à engendrer d'autres vies. Notre vie nouvelle peut aussi devenir une source de résurrection pour d'autres, afin qu'eux aussi naissent à la vie éternelle. Paul dira, qui sommes-nous pour Dieu ? Oui, nous sommes un parfum de Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Nous serons témoins, soit de la vie, de la mort, parce que ceux qui ne veulent pas, pour eux c'est la mort, ouais, ils se moquent, et ceux qui veulent la vie, ils reçoivent la vie. Ça ne laisse personne indifférent. Connaître la puissance de sa résurrection, c'est connaître la puissance de vie. Qui sont de mort que nous étions, il nous a rendus à la vie. Qui triomphe dans notre esprit, notre âme et même notre corps de tous les germes de la mort. Et Ruben en a évoqué un témoignage. Et connaître la vie de résurrection, c'est engendrer cette vie à d'autres, le témoignage vers d'autres. Alors je voudrais juste dire quelque chose concernant ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accès dès à présent à cette puissance de vie de résurrection. Mais ceux qui sont religieux, alors même dans les églises évangéliques, il y a des personnes qui aiment le Seigneur, qui aiment Jésus, mais de manière religieuse. Eh bien, tout en aimant le Christ, ils n'ont pas accès à cette puissance. Et pour y arriver, parce qu'ils sont entourés de gens voilà, qui sont portés par l'esprit de vie, eh bien, ils vont faire des efforts. Et ça s'appelle des efforts religieux. Par leur force naturelle, ils vont essayer de ressembler à Christ, ressembler aux autres. C'est super, je dirais, comment dirais-je, je trouve pas le mot. Louable, louable, mais c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça la chrétienté, c'est pas ça le christianisme, c'est pas ça l'évangile. Vous voyez, c'est peut-être bien à vue humaine, mais c'est pas ça. Par la force naturelle, ils veulent ressembler à Christ sans jamais y parvenir, parce que même nous qui avons le Saint-Esprit, enfin, nous, je dis ceux qui sont nés de nouveau, ça personne ne le sait. Eh bien, c'est le sens des paroles de Jésus à Nicodème. Ceux qui sont nés de nouveau, lui dit-il, le savent, car leur esprit dit Abba, Père. Et parfois, on le voit dans l'intimité de la prière. C'est pour ça que la prière est tellement importante. Tous les pasteurs de tous les temps, depuis 2000 ans, disent que la réunion de prière est un thermomètre de l'Église. Parce que dans la prière, dans un culte, on peut être là et ne pas être né de nouveau. Dans un temps de prière, c'est plus difficile. Ouh, il y en a qui peuvent rester, mais pas longtemps. C'est pour ça que moi, je tiens beaucoup aux réunions de prière. Avec Michel, quand l'église s'est écroulée en 98, on savait qu'il n'y avait que la prière qui pouvait permettre à une église d'exister ici. Et parfois, on n'était que tous les deux, tous les trois, pendant des mois, voire des années, enfin une année et demie. Et les pasteurs qui sont venus de passage, ils venaient à réunion de prière, ils disaient « Mais comment vous faites ? Vous avez une église et puis vous n'avez personne à réunion de prière. » Et nous, on reste fidèles. Et les gens sont revenus, etc. Voyez-vous, c'est ça. L'intimité se voit dans la prière et dans la capacité de croire que simplement prier déclenche un combat spirituel dans le ciel qui fait que la puissance de résurrection peut se manifester. Parce que quand on dit Abba Père, on a une intimité avec le Papa céleste et on sait à qui on s'adresse. Et c'est un des critères pour voir si les gens sont nés de nouveau. L'erreur naïve de certains chrétiens, même des chrétiens qui sont dans des ministères, d'assumer que des personnes sont nées de nouveau parce qu'elles sont dans une église évangélique ou qu'elles confessent Jésus-Christ parce qu'elles ne prient pas Marie, etc. Bon. Au sein d'une communauté chrétienne, c'est une erreur. Il ne faut pas l'assumer. Ce qui distingue les chrétiens nés de nouveau, c'est d'avoir expérimenté la vie de résurrection, mes amis. Or, cette expérience n'est connue que par les personnes elles-mêmes et personne d'autre. elle ne peut pas se transmettre par un enseignement religieux, ni par une volonté humaine, ni par des efforts aussi louables soient-ils. Moi, j'étais catholique en fond de cœur depuis tout mon jeune âge. Je faisais même les messes le matin, à 5 heures du matin, dans les hôpitaux avec le curé, etc. Et c'est à 20 ans. Et j'avais le Nouveau Testament, c'était mon livre de chevet, je le lisais tous les jours, jusqu'à 20 ans. Et j'aimais le Seigneur. Mais à 20 ans, j'ai rencontré le Christ. Et là, c'était la puissance de la résurrection, mes amis. Et je sais en qui j'ai cru. Et je sais en qui je crois, et en la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance de la résurrection qui nous transforme et qui nous aide à aller jusqu'au martyr, s'il le faut, parce que personne ne peut nous enlever la communion avec Dieu. C'est une puissance de résurrection de Dieu, de vie nouvelle. La résurrection n'est pas seulement la puissance de vie, c'est une puissance de vie nouvelle, de vie différente de celle de ceux qui nous entourent dans le monde. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est Romains 6, verset 4. Dans Romains 7, il va dire, Paul, vous êtes mort, pour appartenir à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Sans fruits, il n'y a pas de puissance de résurrection. Regardez la vie de la nature, il n'y avait rien, vous croyez, les arbres morts, ils sortent. Et là, c'est pareil. Si on a rencontré Christ et qu'on a la vie de résurrection, il y a des fruits. Des fruits, selon Galates, bien sûr, de l'esprit. La puissance de résurrection nous libère de la loi du péché et de la mort. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Vous avez été affranchis du péché, libre de la pesanteur de notre vieille nature qui nous tirait vers le bas. Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dira Paul dans Galates 2. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est de nouveau et déjà là, le dira dans 2 Corinthiens 5. Cette vie nouvelle se renouvelle de jour en jour à l'image du Christ crucifié. Alors comment connaître cette puissance ? Connaître cette puissance, l'apôtre Paul nous indique le chemin. Dans l'Épître aux Philippiens, il nous parle de cette puissance en disant « Toutes ces choses, donc celles qui sont acquises par l'instruction, l'éducation, notre façon dont nous avons été élevés, constituaient à mes yeux un gain. Mais, à cause de Christ, je lui considère comme une perte. Si nous tenons aux gloires de ce monde, à ses honneurs, à ses bénéfices, nous ne saurons jamais que faire de la puissance de sa résurrection. Elle nous embarrasse plutôt. Mais Paul veut être trouvé en Christ, avec la justice qui vient de la foi en lui que Dieu accorde à ceux qui croient. La justice s'attache à nous lorsque nous croyons en Jésus. Nos efforts ne servent à rien, mes amis, pour la connaissance de cette puissance. C'est par la foi que nous adhérons à cette puissance. La foi, c'est la confiance absolue dans la grâce de Dieu. Enfin, c'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenu semblable à lui jusque dans la mort. Alors écoutez bien, c'est très important. La puissance de la résurrection est encadrée par deux connaissances. Celle du Christ, j'en ai assez longtemps parlé, et celle de la communion à ses souffrances. Je répète, celle du Christ, la puissance de vie et la communion à ses souffrances. Mieux nous connaîtrons le Christ, mieux nous connaîtrons aussi la puissance de sa résurrection, puisqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Mais si nous voulons connaître la puissance de sa résurrection, il nous faut aussi apprendre à connaître la communion de ses souffrances. C'était l'expérience de Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 10. Il dit « Puisque la puissance de Christ repose sur lui, il accepte les souffrances qu'il endure pour lui, car, lui a dit le Seigneur, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Paul, il aurait bien voulu être débarrassé. On suppose que c'est quelque chose à l'œil qui l'empêchait de voir correctement. Peu importe. Il voulait en être guéri. Eh bien, le Seigneur a dit non, c'est parce que tu vas rester dans l'humilité, dans la dépendance avec moi, c'est une grâce que je te fais de ne pas enlever cette souffrance. Parce que ça va t'aider. Et je pense que si aujourd'hui beaucoup de télévangélistes faisaient ça, ils ne tomberaient pas, comme ils tombent comme des mouches en ce moment. Nous, on a connu avec Michel les gens sages, comme Wimber ou d'autres, qui, vous savez, quand vous avez des résurrections des morts, à un moment donné, il a dit, on a un gros problème, en Afrique du Sud, tous les morts pour lesquels on prie ressuscitent. Donc, on a un problème de discernement, parce qu'un petit pépé de 95 ans, peut-être, il ne veut pas ressusciter. Donc, il priait pour savoir pour qui il priait. Mais tellement, ouais, quand on aura ce problème, ce sera bien. Eh bien, il y a des gens qui ressuscitent, qui lui donnent toute sa fortune. Et il aurait eu de l'argent, et il a eu la sagesse de dire, je ne prends rien. Je prends un salaire de mon église et tout le reste, vous débrouillez. C'est de la sagesse. La sagesse. Quand on n'a pas cette sagesse, comme beaucoup, beaucoup d'églises, des méga-churches en particulier aujourd'hui, eh bien c'est une catastrophe. Une catastrophe pour l'évangile. Parce qu'on ne veut plus souffrir. Mais la souffrance fait partie du fait qu'on reste dans l'humilité pour dépendre du Seigneur. Le dimanche de Pâques est inséparable du vendredi qui précède. C'est la croix. La croix qui est une puissance de résurrection qui pourrait se déployer en nous par la conformité à sa mort. La mort et la résurrection sont deux choses inséparables. Jésus a accepté la mort de manière volontaire. Il ne l'a pas subie. Volontaire. C'est la pensée que Paul développe dans Romains 6. C'est dans la mesure où nous acceptons de mourir à nous-mêmes, à notre ancienne vie de péché, que nous expérimenterons la puissance de la résurrection de Christ dans notre vie. C'est le sens de la repentance à laquelle nous accédons à cette vie de résurrection. C'est le seul chemin possible pour entrer dans le royaume de Dieu, a dit Jésus à Nicodème et à d'autres, puisqu'il a prêché la repentance. Alors, je vous invite à rejoindre nos rencontres de prière tous les mercredis, participer à cette puissance de résurrection par la repentance. Le Seigneur, au mois de septembre, plusieurs d'entre vous m'ont poussé à déployer la repentance. Mais je me suis placé devant le Seigneur, il m'a dit non, pas comme en 98. En 98, j'étais là, tout seul, et j'ai appelé ma femme, mes enfants, j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ici, parce que Dieu nous a appelés ici. Maintenant, vous êtes tous libres, faire ce que vous voulez. Parce qu'il y avait une crise. Et petit à petit, les mois passant, et j'ai dit, le Seigneur nous a dit, déclarer une repentance générale de l'Église. On l'a déclaré. Le 5 septembre, c'était mon anniversaire, j'ai déclaré ça. Et là, il y a un combat spirituel qui s'est passé, mais alors absolument incroyable. Il y a deux camps qui se sont affrontés. Enfin, non. Ceux qui étaient pour ne sont pas affrontés, ils étaient les victimes des autres. Et pendant 5 semaines, tous les jours, j'ai organisé des séances de repentance ici même. Et 2 fois le dimanche. Le Seigneur m'a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Tu fais des réunions de repentance dans des temps de prière intimes et les gens décideront d'y venir ou pas. C'est leur choix. On n'est pas dans une crise d'église. On est simplement dans chacun doit se replacer devant Dieu pour expérimenter la mort et la résurrection qui va de pair. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. La mort à nos péchés. le pardon de tout ce que nous faisons mal. Si nous croyons que nous sommes bien, mais nous sommes des pharisiens, puisque la Bible dit que ceux qui ne croient pas, ils sont menteurs. Nous avons tous, sommes tous pécheurs. Voilà, donc j'envoie cette invitation de manière très libre, justement, parce que je n'ai pas accepté, je n'accepte pas de le faire ici pour obliger les gens à venir à des réunions de repentance. Mais c'est un choix. Comme chacun d'entre nous, nous sommes placés devant un choix. Et ce n'est pas juste parce que nous sommes chrétiens que nous sommes bien. Apocalypse, quand il est dit que le Seigneur frappe à la porte, c'est adressé à des chrétiens, pas à des inconvertis, comme souvent on l'utilise dans les témoignages d'évangélisation. Ce n'est pas faux de l'utiliser, mais c'est à des chrétiens. Parce que les chrétiens, on a tendance à refermer la porte. Même si nous sommes nés de nouveau, nous nous endormons. Le Seigneur dit, je veux souper avec toi, je veux venir avec toi dans l'intimité. Oui, dans l'intimité avec toi. Bien sûr, tu connaîtras les souffrances. Moi, j'ai connu beaucoup de souffrances dans le ministère. Mais à chaque fois, je savais qu'il y avait des fruits derrière. Et je sais qu'aujourd'hui, il y aura des bons fruits. Et je vous invite à nous rejoindre dans la repentance et la foi qui précède la gloire et le réveil. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de cette résurrection. Seigneur, qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé, Seigneur, l'humanité depuis 2000 ans, parce que tu es celui qui, en tant que fils de l'homme, est entré dans cette dimension d'homme nouveau, d'homme ressuscité, d'homme sans péché, qui ne peut plus connaître la mort. Et Seigneur, nous participons à toi, et c'est vraiment une grâce, et nous voulons vraiment nous humilier devant toi de ne pas suffisamment considérer cette réalité pour nous-mêmes, afin que nous puissions la mettre en pratique au quotidien. Seigneur, aide-nous à nous placer devant toi, à nous humilier devant toi, de notre orgueil, de notre passivité, de tout ce qui nous empêche de réaliser que la résurrection est une puissance de vie. Et si Paul l'a tellement chéri, eh bien Seigneur, à combien plus forte raison, nous aussi nous sommes appelés à la chérir, parce que c'est la base de la vie chrétienne, et la base de la réalité que nous voulons vivre. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen.